Tout a commencé lorsque l'homme s'est mis debout en se redressant. Il y a plusieurs millions d'années, la verticalisation de son corps lui a permis de faire descendre son larynx dans l'espace du cou. Et cette particularité anatomique a donné naissance au développement du langage, une singularité portée par un instrument unique en son genre, la voix. Qu'elle nous serve à parler ou à chanter, notre voix s'apparente à une empreinte digitale. Elle est unique, elle révèle notre personnalité et nos émotions. Le dossier lui est consacré cet après-midi avec trois invités dont le métier est directement lié à la voix. Je reçois dans un instant un professeur de chant, un chirurgien ORL et un chanteur célèbre. Et j'attends toutes vos questions dès maintenant sur franceinter.fr. Et le mot-clé, l'attaque. Les biocarburants seraient-ils plus polluants que les carburants classiques? Un pavé jeté dans la mare environnementale, c'est aujourd'hui à la une de la science. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu. Un rapport de l'ONG Transport et Environnement et des conclusions qui font réfléchir. Un litre de biodiesel émettrait 80% de CO2 en plus que du diesel classique. On refait les calculs dans un instant à la une.
Et ça fait déjà mal. Stéphanie Texier revient aux commandes de notre Tête au Carré, préparée avec Emmanuel Fournier et Dylan Byner.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
La voix parlée et chantée donc dans un instant dans le dossier de l'émission avec donc mes invités, le professeur Raymond Viré, le chirurgien ORL Jean Abitbol et le chanteur Maxime Le Forestier. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bienvenue. Raymond Viré, on s'était promis de se retrouver. Hein. Ah, oui. On s'était vu il y a trois semaines. On était tellement frustrés de ne pas avoir eu assez de temps
et
pour discuter.
Moi, je suis très touché que vous m'ayez ramené chez vous.
Ouais, on est ravis de vous accueillir pour nous expliquer comment ne pas parler ou chanter à l'envers, par exemple.
Ah, chanter à l'envers, c'était ce que je faisais quand j'étais au conservatoire et avant, car on m'avait jamais expliqué que pour chanter, il fallait se servir de son diaphragme et l'abaisser et de trouver la voix. Je vais faire frémir le docteur qui est à côté de moi et de retrouver la voix à hauteur de l'anus, par exemple.
Voilà, c'est une image comme une autre, mais il y en aura d'autres au cours de l'émission. Voilà. Maxime Le Forestier, vous êtes, paraît-il, l'un des trois mousquetaires de Raymond Viré avec Jacques Weber et François Morel. Est-ce que Raymond Viré est un professeur sans concession avec vous?
Oui, c'était absolument. Sans aucune concession, mais elle est là pour ça.
Donc vous en redemandez et vous y retournez. Hein.
Oui, j'y retourne.
Jean Abitbol, la voix c'est un instrument de pouvoir aussi, hein. C'est ce qu'on va découvrir avec vous.
Oui, c'est un instrument de pouvoir sur soi-même d'abord. Parce qu'en se parlant à soi-même, on a notre petit jardin secret qui nous a une force intérieure. Et puis un pouvoir sur les autres, ne serait-ce que ce pouvoir émotionnel des acteurs, des chanteurs. Qui lorsqu'on est dans une foule et qu'on les écoute, on a la larme à l'œil grâce à leur voix.
Et le pouvoir des leaders politiques aussi, on en parlera.
Alors ça, c'est
avec
une
vous.
Autre histoire.
On aura des choses intéressantes à écouter. On se retrouve dans un instant pour ce dossier avec les messages des auditeurs.
La science de l'environnement, en partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et les biocarburants sont-ils vraiment bons pour l'environnement selon l'ONG Transport et Environnement? Eh bien, pas du tout.
Ils permettent de faire rouler les voitures et de faire marcher les machines. Ils sont fabriqués à partir de produits agricoles et ça remplace le pétrole.
Et comment on fait?
En simplifiant, disons qu'on utilise des plantes comme le colza, le tournesol ou le soja. Et comme ce sont des végétaux qui repoussent chaque année, il n'y a qu'à les récolter.
Déjà pointés du doigt pour leur contrepartie perverse, déforestation, disparition des cultures, augmentation des prix des denrées alimentaires, bien cette fois, le bilan carbone des biocarburants est mis en doute selon l'ONG européenne Transport et Environnement. Donc les biocarburants de première génération et le biodiesel en particulier seraient responsables, écoutez bien, de 80% d'émissions de CO2 supplémentaires par rapport aux carburants classiques. Michel Dubromel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président de l'association France Nature et Environnement. Et puis dans ce studio avec nous, Hervé Kempf pour Reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Un rapport dont la presse française se fait très peu l'écho, c'est étonnant, non ?
Écoutez, oui, surtout que là, c'est vraiment un jackpot cette affaire. Vous dépensez 3 milliards d'euros, c'est les consommateurs qui payent essentiellement, vous augmentez les émissions de CO2, c'est bien pour l'environnement, et en plus, vous avez un effet néfaste sur la nature, sur les forêts tropicales et sur les champs, c'est vraiment le jackpot, et pourtant, ça continue. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Il y a deux agrocarburants, il y a d'un côté le biodiesel, qui est fait avec du soja, du colza, de l'huile de palme, et du bioéthanol, qui est fait par exemple en France avec des betteraves. Alors celui-là, on n'en parle pas, on parle bien du biodiesel. Et ce que nous dit l'étude de Transport Environnement, qui est une grosse ONG basée à Bruxelles, et qui est importante, c'est elle qui avait, entre autres, contribué à révéler le scandale Volkswagen en septembre dernier, sur le diesel, vous en souvenez. En gros, ce que dit Transport et Environnement, en s'appuyant sur une grosse étude européenne et en faisant ses propres recherches, c'est, vous l'avez dit, un litre de biodiesel émet 80% de CO2 de plus qu'un litre de diesel. C'est l'équivalent à calculer transport environnement de s'il y avait 12 millions de voitures supplémentaires en Europe. Alors, d'où vient ce mystère polluant? Eh bien, d'une part, dit transport environnement, il y a les émissions des tracteurs, des pesticides, des engrais sur ces grandes monocultures que sont les cultures des agrocarburants. Et puis, il y a un effet indirect sur le changement d'affectation des terres, parce que quand vous cultivez de l'huile de palme, vous déforestez la forêt tropicale. Quand vous faites du soja et du colza, vous allez détruire des prairies et d'autres natures. Et puis, pour finir, cerise sur le gâteau, c'est 3 milliards. Eh bien, il y a eu des rapports de l'Inspection Générale des Finances, de la Cour des Comptes, et qui disent que depuis 2005, on a dépensé en France plus de 3 milliards d'euros pour soutenir ces agrocarburants qui donc émettent plus de gaz à effet de serre que le carburant normal.
Axel.
Michel Dubromel, comment ce bilan carbone a-t-il pu passer à côté? Comment la Commission européenne a-t-elle pu passer à côté de ce bilan carbone?
Oui, bonjour. Et bonjour aux intervenants. Mais écoutez, c'est le gros problème des biocarburants. En fait, en France, on devrait dire agrocarburant. Mais en fait, il faut savoir aussi de quoi on parle. Comme l'a dit à l'instant Hervé Kempf, ce que l'on a en face de nous, ce sont des huiles végétales que nous avons chacun d'entre nous sur notre table tous les jours au quotidien. Donc, je pense qu'il y a peut-être cette image-là qu'il faut rappeler. On est en train de parler d'huile végétale qu'on transforme en biodiesel. Et depuis le début, alors, c'est vraiment la fausse bonne solution. Nous, Association de protection de l'environnement, faisant partie Transport Environnement, nous avons toujours été favorables à ce type d'études, mais en disant, attention, quels sont les impacts? Est-ce qu'on évalue vraiment les impacts de ces agrocarburants sur l'environnement, et non pas uniquement quand on les met dans du diesel? Et on a toujours nié. Ben, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en France, on ne voit pas les cultures de palmes. Les cultures de palmes, elles sont à l'autre bout de la terre. Et on a en général une réflexion purement hexagonale, que ce soit en France ou même en Europe. On ne regarde pas les dégâts environnementaux à l'autre bout de la terre. Et ben, pourquoi l'huile de palme? Parce que c'est un produit qui pousse très rapidement. Et donc, c'est beaucoup plus, excusez-moi, facile de déforester pour faire de l'huile de palme que de rechercher où sont les vrais problèmes. Nous, Transport et Environnement, avions voulu faire une étude sur les dossiers, puisque nous travaillons toujours d'après les données de la Commission européenne. Et ce qui est curieux quand même, c'est qu'il y a 4 ans exactement, la Commission européenne avait refusé l'accès aux données des études. Donc il y a quand même un problème.
Bon, on peut comprendre pourquoi, à la lumière des résultats aujourd'hui en tout cas, Axel.
Comment vous avez fait pour avoir accès à ces données, pour refaire ces calculs?
Mais écoutez, nous étions bien embarrassés, puisque nous travaillons en général en toute transparence avec la Commission européenne, et donc nous sommes allés en Cour de justice de l'Union européenne pour demander à avoir accès aux données, faute de quoi, eh bien, nous serions obligés de les reconstituer, et donc en utilisant des moyens juridiques, on n'aime pas ça, nous avons eu accès aux données, ce qui nous a permis, puisque au niveau de transport et environnement, nous sommes toujours très vigilants pour avoir des études qui soient incontestables. C'est-à-dire que nous prenons toujours des données qui viennent de la Commission européenne, que nous soyons d'accord ou pas avec les conclusions. Donc, nous sommes repartis des données de la Commission européenne, et les études que nous citons sont des études de la Commission européenne, qui permet comme ça d'avoir une étude indépendante.
Hervé, le domaine du biocarburant, vous l'avez dit, est un domaine qui reçoit aujourd'hui des subventions européennes très importantes. C'est à remettre en cause immédiatement au vu du rapport, selon vous?
C'est ce que l'on peut penser, surtout que si l'effet environnemental, qui est celui qui pourrait justifier l'emploi de ces agrocarburants, n'est plus là, on se pose vraiment la question. Et effectivement, je voulais rappeler, il y a eu deux rapports de l'Inspection Générale des Finances, de la Cour des Comptes là-dessus. La question qu'on a envie de poser à Monsieur de Bromel, c'est qu'est-ce qui fait qu'en France, on continue à soutenir ces agrocarburants? Est-ce que le fait que le principal producteur en soit le groupe Avril Sophie Protéol, qui est présidé par Monsieur Xavier Belin, par ailleurs secrétaire général de la FNSEA, le grand syndicat agricole, a à voir dans ce maintien d'une subvention et d'un système qui est absurde?
Michel Dubromel, votre réponse?
Oui, alors moi je n'ai pas envie de dénigrer une personne ou une autre, mais j'ai eu l'occasion d'assister à des demandes officielles en commission des risques technologiques pour des unités de fabrication d'agrocarburants, et donc j'avais donné un avis défavorable, et le directeur de l'unité, très honnête d'ailleurs, m'avait dit, écoutez, moi je fais cette demande uniquement pour bénéficier de subventions européennes, je considère qu'il est absolument inconcevable d'utiliser du maïs pour faire du biodiesel. elle. Donc, vous voyez, c'est vraiment un jeu aux subventions, que Sophie Protéol ou autre joue le jeu des subventions. Je crois que c'est beaucoup plus au niveau du gouvernement et la Commission européenne qu'il faut cibler. Il faut leur dire arrêtez, sous prétexte de projets climatiques, de subventionner des activités qui vont à l'envers du changement climatique.
Et qui aggravent les choses, oui.
On parle depuis tout à l'heure des premières générations de biocarburants. Deux sont promises encore, la deuxième et troisième génération. Est-ce qu'on peut imaginer un bilan carbone meilleur pour ces générations-là?
Mais nous, notre demande, justement, depuis, parce qu'en fait, ça fait au moins 5 ou 6 ans que l'on sait que ces huiles végétales sont négatives en termes d'émissions de CO2. Et ce que nous demandons, nous, c'est que y a de l'argent, puisqu'on finance actuellement des hydrocarburants de première génération, mais qu'un petit morceau de ceci serve à la recherche, parce que aller rechercher des déchets de forêt, des déchets qui peuvent être valorisés et là qui ont un bon impact carbone, c'est cette recherche-là qu'il faut financer plutôt que de financer des activités qui sont nuisibles à l'environnement et au climat.
Merci beaucoup Michel Dubromel. Donc on retient cette information avec M. Enfin, les biocarburants de première génération, le biodiesel en particulier, donc sera responsable de 80% d'émissions de CO2 en plus par rapport aux carburants classiques. Information donc du jour suite à cette étude et qu'on retrouve bien sûr sur reporter.net abondamment commenté, j'imagine. Merci.
Absolument.
Hervé.
Absolument, au revoir.
À la semaine prochaine, à demain Axel.
À demain,
merci. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le plus grand accélérateur de particules au monde, le LH, situé sous la frontière franco-suisse, a subi une panne de courant il y a 3 jours. Et selon le CERN, l'auteur du sabotage n'est autre qu'une fouine qui aurait grignoté un câble d'alimentation de 66 kV. Ça n'est pas la première fois que ce genre d'incident se produit. En 2009, un oiseau avait fait tomber une miche de pain dans un réseau électrique, provoquant une perte de puissance. Heureusement, le LHC, à l'origine de la découverte quand même du boson de Higgs, devrait à nouveau être opérationnel d'ici quelques jours. La fouine, quant à elle, a été retrouvée calcinée. Paix à son âme. Les corbeaux seraient aussi intelligents que les grands singes. C'est ce que démontre un article publié dans la revue Royal Society Open Science. Des tests de résolution de problèmes mêlant stratégie et self-control ont été soumis à 36 espèces en 2014 ainsi qu'à 3 types de corbeaux plus récemment. Le principe était de trouver de la nourriture en choisissant la bonne stratégie et à l'instar des bonobos et des gorilles, eh bien les corvidés ont passé ce test haut la main, se rapprochant des 100% de réussite. Plus que la taille du cerveau, la densité neuronale pourrait, selon ces chercheurs, être un bon marqueur de l'intelligence animale. Et puis Hubble encore frappé, notre cher télescope spatial a pu mettre en évidence une lune gravitant autour de la planète naine Makemake, c'est son nom. Située à plus de 7 milliards de kilomètres du Soleil, l'astre découvert en 2005 est le 3e astéroïde géant le plus imposant du système solaire jamais découvert à ce jour. Provisoirement baptisé MK2, la lune mesure environ 160 kilomètres de diamètre et effectue le tour de Makemake en 12 jours. Une vidéo inédite de la NASA avec des images de synthèse vous attend sur le Facebook de La Tête au Carré. Allez, un dossier sur la voix dans un instant et j'attends vos questions sur le site de l'émission franceinter.fr et les réseaux sociaux avec le mot-clé l'attaque. Like me, it's true. Alabama Shakes avec Guess Who à l'instant.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Et jusqu'à 15h, eh bien, nous parlons de notre voix, parler ou chanter pour en connaître les mystères et les caractéristiques avec mes trois invités, Raymond Viré, donc professeur de chant, et votre livre Trouver votre voix que vous avez publié chez Albin Michel. Maxime Le Forestier, la voix, c'est bien sûr votre principal instrument. En tant que chanteur, vous êtes également avec nous cet après-midi. Et puis Jean Abitbol, vous êtes chirurgien ORL, phoniatre, et vous êtes l'auteur d'un livre, Le pouvoir de la voix, différents pouvoirs qu'on va pouvoir découvrir justement avec vous aux éditions Alary. Et les messages des auditeurs. Maxime Le Forestier, dans la préface du livre de Raymond Viré, vous racontez votre première rencontre avec elle. C'était, je crois, à la sortie d'un concert de votre fils Arthur. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été assez direct hein, comme échange.
Non, c'était pas un concert d'Arthur, c'était un concert de Renan Luce, les trois, là, Alexis HK et Doremus. Arthur prenait des cours avec Raymond déjà depuis plusieurs années.
C'est ça.
Et c'est la première fois que je la voyais, il m'en parlait beaucoup. Et elle me dit, vous voyez, votre fils, il atteint le contrut maintenant. Le contrut, pour les auditeurs, c'est une petite octave au-dessus de ma note la plus haute.
Donc j'avais une octave au-dessus.
Une octave au-dessus, oui. J'avais compris la touche de perfidie qu'il y avait dans la remarque de Raymond.
Attention.
Donc je lui dis, mais c'est très bien, mais je l'ai entendu fortissimo. J'aimerais bien entendre ça pianissimo, en envoyant contre perfidie. Et là, elle me dit, mais enfin, vous êtes fou. Il faut 15 ans pour obtenir ce genre de résultat. De toute façon, vous n'avez jamais su chanter.
Voilà.
Donc je me suis dit, je vais aller vérifier quand même. Et j'ai commencé à travailler avec Raymond et j'ai pris un plaisir fou et je continue d'ailleurs à prendre un plaisir fou.
Ça fait combien de temps? 3 ans maintenant que vous prenez des cours de chant avec elle?
Un peu plus. J'avais fait quelques concerts avec des chorales où je sentais qu'il y avait certaines notes qui étaient douloureuses. Ouais. Et j'avais le choix entre prendre des médicaments et aller chez Raymond. Et mon fils m'a dit, va plutôt chez Raymond. Et c'est vrai que ça m'a complètement rassuré par rapport à la tournée qui a fait quand même 180 dates derrière. C'était long, c'était dense, il y avait parfois 5-6 concerts par semaine. Et le fait d'avoir remis tout ça en place, elle me l'a pas appris. Je l'avais appris quand j'avais 20 ans.
Ouais, vous aviez pris des cours avec Jean Lumière, je crois.
Oui, pendant mon service militaire, Jean Lumière ne faisait pas payer les militaires. Donc j'allais en uniforme chez Jean Lumière et je ne payais pas, c'était formidable.
Raymond Viré, vous écrivez que Maxime Le Forestier avait trop tiré sur les cordes.
Non.
Ah ben vous l'écrivez.
Oh oui, peut-être. Bon, c'est-à-dire qu'il perdait ses aigus, le peu d'aigus qu'il avait, il les perdait. Et comme il m'avait répondu que, étant donné que c'était lui qui composait et qui écrivait ses chansons, il raccourcissait et personne ne voyait, sauf moi. Vous entendez. Bon, alors, donc, quand il est arrivé, j'ai eu très très peu de choses à faire parce que lui dire, prends l'air par la bouche. Ouvre ta cage thoracique, descends ton diaphragme. Il avait déjà fait ça il y a 40 ans avant.
Donc
il l'a refait très vite, ce qui fait que moi j'ai eu des petites retouches à faire. Mais malheureusement, heureusement, les résultats sont là. Ils sont là et je sais que le prochain album, tu viendras encore un petit peu me voir.
Ah mais la technique, maintenant pour les albums, je prends rendez-vous avec Raymond à 11h du matin. Je travaille jusqu'à midi. À midi, il y a un taxi qui m'attend en bas de chez elle. Je file au studio et là, je chante pendant une heure. Et c'est comme ça que j'ai fait toutes les voix du précédent album.
Donc avant chaque album, il y a une période d'entraînement intensif, comme
finalement,
le
finalement, n'importe quel sportif se chauffe un petit peu avant, avant d'aller courir.
Jean Vidbol, vous les voyez aussi, les artistes, avant de monter un spectacle?
Moi, je suis le luthier. C'est-à-dire que j'arrange le violon, mais jamais je me permettrais de dire comment manipuler la main qui est sur l'archet du violon. Jamais. On a chacun un rôle, et dans ce rôle, il faut, même si on connaît relativement bien, il faut être. Mais ce que dit Raymond et ce que dit Maxime, c'est essentiel. Je dirais même que c'est crucial, et dans la mesure où si on n'a pas une bonne technique, comment chanter? Si en chantant on pense à la technique, c'est fini, on ne chante pas. Il faut que la technique ne soit que le support, comme un pianiste ou un violoniste qui connaît ses gammes par cœur. Après, il ne pense plus à jouer, il pense à interpréter, ce qui est totalement différent. Voilà. Lorsqu'un chanteur joue avec sa voix, c'est beau. Mais lorsqu'il interprète la chanson en oubliant que c'est la voix et que la voix, elle est là toute seule, là, on va sentir l'émotion, que finalement, c'est 80% du message.
Raymond Viret, est-ce qu'il y a une seule technique qu'on enseigne? C'est-à-dire, tous les élèves que vous avez qui ont différentes tessitures, est-ce que vous leur enseignez exactement la même chose? Parce que l'anatomie est la même et qu'il y a une seule technique.
À tous.
Ça ne varie pas d'un iota selon les voix que vous avez devant vous?
Absolument pas. Le travail est le même. Évidemment, on a affaire à des voix plus ou moins belles, plus ou moins grandes, plus ou moins volumineuses, plus ou moins intéressantes, à vous dire.
Oui.
Bon, mais dans tous les cas, au départ, c'est la même chose.
Oui.
Je demande à l'élève d'essayer de retrouver le cri primal du bébé.
Ah oui,
le bébé,
ça c'est...
quand il sort du ventre...
Non mais c'est là où c'est pas la même chose. Non mais c'est là où c'est la même
Raymond,
chose.
Dans le micro. Dans le micro, parce qu'on ne vous entend pas.
Le cri primal est différent en fonction de chaque être humain. Et la technique sera, à mon avis... Certes, la base est la même.
Mais bien sûr.
Mais ensuite, comment cet habillage va se faire? Comment le milieu émotionnel va se faire?
J'habille rien. Le bébé qui sort du ventre le bébé qui sort du ventre de sa mère, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre, excusez-moi le micro, j'ai pas l'habitude. Il ouvre la bouche, il remplit ses poumons d'air. Là, les poumons sont attachés. Oui, excusez-moi, les poumons sont attachés aux côtes par le feuillet pariétal. Et au poumon par le feuillet viscéral, c'est ça, docteur?
Oui, très bien.
Je ne me trompe pas. Donc, quand les poumons sont gonflés, la cage est ouverte. Pour chanter, pour émettre le premier cri, le bébé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son air, il a ouvert sa cage thoracique puisque ses poumons sont gonflés, son diaphragme s'est aplati, il a poussé vers le bas comme s'il était constipé depuis 15 jours, donc là, l'image c'est pour les adultes, et il pose sa voix d'instinct à hauteur de l'anus. Il laisse faire ses cordes vocales.
Il braille pendant des mois sans jamais s'abîmer la voix.
Sans jamais avoir mal à la gorge.
On peut aller beaucoup plus loin.
Ah bah, c'est qu'on n'a
jamais vu un enfant avoir des polypes, des cordes vocales. Et donc, c'est exactement ce que vous dites.
Et ben,
c'est naturel.
Voilà, la voix est un acte naturel.
À 100%. Jusqu'à l'âge de 12 ans.
Je suis contente parce que j'avais peur. J'avais peur de vous, docteur.
Vous êtes validé.
Ah non, mais j'avais peur. Parce que votre bouquin est extraordinaire. Moi, je dis, il est pour moi, il est pour des adultes, pour des gens qui ont déjà été à l'école, qui savent ce que c'est qu'un petit peu un appareil phonatoire, respiratoire, auditif. Mais moi, ceux qui viennent chez moi, la plupart s'en moquent complètement. Alors quand vous leur dites ce que je leur dis moi, ils comprennent mieux que votre livre, qui est une merveille, mais une merveille pour des gens qui sont informés.
Ah oui, mais c'est grand public quand même. Je trouve qu'on lit. Il y a beaucoup d'anecdotes aussi que vous racontez.
C'est vrai.
Jean
c'est vrai. Les Dogons, je ne suis pas au courant.
Ah, on va en parler tout à l'heure effectivement. Oui. Alors les voix dysphoniques.
Donc le premier cri du bébé. C'est ce que je dois.
Bon, donc c'est ce que fait Maxime Le Forestier sur scène. Il fait le cri du bébé ou pas alors?
Ah oui, maintenant c'est extraordinaire. Mais j'ai expliqué ce que...
Maxime,
c'est une...
Vous pensez à tout ça quand vous chantez? Enfin, tout ce que vient de nous décrire Raymond Viret?
Sur certains...
Pas tout le temps. Parce qu'il faut se rappeler le texte, il faut se rappeler les accords de guitare, il faut se rappeler des tas de choses. Donc effectivement, ce que disait le professeur Vidbol tout à l'heure, c'est il faut oublier la technique. Une chose que je voulais dire, c'est que je me souviens de mon premier cours chez Lumière et de mon premier cours chez Raymond, et les deux, ils vous montraient une planche en couleur avec comment vous êtes foutu, pourquoi les poumons sont plus larges dans le bas que dans le haut, etc. C'est la même, c'est la même approche finalement de se connaître pour arriver à émettre quelque chose.
Ouais. On va entendre une voix assez particulière, celle de Florence Foster Jenkins, qui a inspiré le personnage de Marguerite au cinéma. Et vous commencez déjà à grincer des dents, Raymond de Viré, et à fermer vos oreilles.
C'est douloureux à entendre.
On va voir ce que c'est, parce que cette femme qui adorait chanter, malheureusement, n'avait pas une très très jolie voix, c'est le moins qu'on puisse dire. Oh. Voilà, Florence Foster Jenkins. Ça, c'est la voix originale. Hein. D'ailleurs, c'est celle qu'on entend à la fin du film Marguerite. C'est très pénible pour vous, Raymond, d'entendre cette voix. À chaque fois, vous souffrez énormément. Mais je sais qu'on vous a offert le disque, d'ailleurs.
Oui, c'est un élève. Ouais. Gentiment.
C'est ça, oui. Jean Habitbol, qu'est-ce que vous entendez, vous, dans cette voix?
Dans cette
Parce
voix,
qu'il y a quand même une émotion, moi, je trouve, qui passe.
Voilà. Dans cette voix, il y a deux choses extrêmement plus qu'intéressantes. La première, c'est que, dans ce film, c'est la première fois que la chanteuse écoute sa voix. Avant, elle l'écoutait quand même. On ne peut pas dire qu'elle l'écoutait pas. Mais elle l'écoutait par deux circuits différents. Le circuit quand elle parle de sa vibration intérieure, par son propre corps, et puis le circuit extérieur des lèvres jusqu'à l'oreille. Et à partir du moment où on a eu des casques, justement, où on commence à écouter sa voix avec un casque, les gens qui chantent faux, chantent pratiquement plus faux, parce qu'ils arrivent ils ont un bon retour son. Là, il n'y a pas de retour son. Et c'est la raison pour laquelle elle chante faux. Puis la deuxième chose, c'est qu'elle croit tellement à ce qu'elle veut chanter. Elle croit tellement d'une façon passionnelle, et pas passionnelle, vraiment, qu'elle est là et qu'elle se dit qu'elle a raison. Mais ce qui est extraordinaire dans ce film, c'est que la voix est une naissance, mais Marguerite, le fait de l'avoir écoutée, ça a été son départ. Et c'est là où on s'aperçoit que la voix a un pouvoir incroyable. Ce que je mets dans l'essai que j'ai écrit, c'est qu'un pouvoir incroyable, certes, vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de soi-même.
Oui. Mais là, on entend beaucoup d'histoires aussi. Hein. On entend l'histoire de cette femme
cicatrice.
Qui, toute sa vie, a tenté de...
Là, j'ai la chance d'être avec Maxime, qui est un chanteur remarquable, j'aime beaucoup. Quand on écoute Leonard Cohen, quand il avait 25 ans, il est parti 7-8 ans en Inde, il est revenu, sa voix est devenue beaucoup plus calme, mais grave, et beaucoup plus grave, paradoxalement. Ouais. Donc, la cicatrice de sa vie est dans la voix d'un chanteur.
Ouais. Maxime Le Fossier, qu'est-ce que vous entendez, vous, justement, dans cette voix telle qu'on vient de l'entendre, là, dans cet extrait?
C'est moins faux que je pensais.
Ah oui?
Oui.
Oh, ben dites donc. Vous êtes indulgent, non?
Non, pas indulgent. Mais moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à au diapason. Je me souviens, Moustaki, il chantait toujours bas. Il chantait toujours un 2/3 dixième de ton en dessous. Et une fois, je produisais un enregistrement pour lui, et on commençait à avoir des machines qui nous permettaient de remonter au centième de ton les choses. Donc, pendant qu'il était pas là, je me suis dit, je vais faire l'expérience de remonter un petit peu, de le rendre juste. Mmh. Et effectivement, on avait l'impression qu'il souriait. Et je me suis posé la question, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Et je me suis répondu non. Mmh. Donc je l'ai ramené là où il était, parce que c'est comme ça qu'il entendait, et c'est ça qui faisait peut-être le charme de sa voix. C'est pareil pour Julien Clerc, qui chante toujours un peu bas. Au début ça me gênait, puis depuis que j'ai accepté qu'il était comme ça, et que c'est ça qu'il voulait dire,
c'est une signature.
C'est une signature.
Et cette signature est en soi, lorsque l'on chante, une certaine forme d'œuvre d'art. Est-ce qu'on a le droit, si une sculpture ne nous plaît pas, de la modifier? Certainement pas.
En tout cas, Raymond de Viré, vous dites, ne faut jamais dire à quelqu'un qu'il chante faux.
Non, bien sûr que non.
C'est la pire des choses à faire.
Absolument. Non, mais là, en ce qui concerne Moustaki, parce que je l'ai fait travailler peu de temps, mais suffisamment jusqu'à son dernier souffle, je peux dire. Et en fin de compte, il ne s'appuyait pas du tout sur son diaphragme. Il aurait chanté juste, je crois.
Oui, ce qui est étonnant, parce qu'il avait fait beaucoup de yoga, il savait respirer.
Il était bancal, il s'occupait de...
Georges Moustaki était bancal, on retient cette phrase, on dirait. Mais on aime bien votre sens de la formule.
Il ne travaillait pas avec son corps dans sa globalité, c'est une évidence, je l'ai vu. Je l'ai bien vu à la maison, et je lui ai apporté beaucoup de confort. Il a malheureusement interrompu sa dernière tournée. Il m'a appelé de Barcelone en me disant ben là, c'est fini, qu'il arrêtait parce qu'il ne pouvait plus. Mais c'est, comme il était très malade aussi, hein, s'il avait descendu comme toi son diaphragme et laissé faire ses cordes vocales qui sont des merveilles, mais elles font pas tout. Le docteur Fauvadel dit que ce sont des muscles qui vibrent.
Oui, mais je crois.
Non, il n'y a pas de oui, mais.
Allez, on se retrouve dans un instant. On continue notre conversation parce qu'il faut qu'on écoute Maxime Le Forestier en train de chanter avec le cadeau, par exemple. Voilà. Et c'est dans La Tête au Carré cet après-midi sur France Inter.
Tu m'as pas sorti d'une vitrine emballé de papier fluo, pas volé à tes copines, pas reçu d'en haut. J'étais pas sous l'arbre à boules, ni glissé dans un sabot aussi douce que je me la coule. Je ne suis pas un cadeau. La seule griffe que je connaisse, elle est gravée sur ma peau, un souvenir de tigresse, c'est pas un logo. Je suis pas plus d'anniversaire que produit pour la promo. De moi, qu'est-ce que tu peux faire? Je ne suis pas un cadeau. Tu peux pas me refuser, j'ai signé, reçu. Tu peux pas me renvoyer non plus, sauf.
Extrait de cet album, Le Cadeau, justement, Maxime Le Forestier qui est avec nous cet après-midi avec le chirurgien Jean Abitbol et le professeur de chant Raymond Viré pour parler de notre voix. Maxime Le Forestier, quand est-ce qu'on peut vous entendre sur scène d'ailleurs la prochaine fois? C'est dans le Val d'Oise, je crois, hein.
Ah oui, mais c'est des concerts très particuliers que j'ai commencé il y a quelques années avec le Festival de Troyes. C'est des concerts avec des chorales.
Ouais, les nuits de champagne,
Oui.
Ça.
Et maintenant, il commence à y avoir des chefs de chœur qui écrivent pour chorale d'une façon un peu plus originale, dont un qui s'appelle Brice Bayon, que j'aime beaucoup, et qui a arrangé certaines de mes chansons pour des chorales. Donc on fait ça dans le Val d'Oise, je crois que c'est la fin mai.
28 et 29 mai.
Ah ben vous savez, voilà. vous savez
il y aura
plus
trois
que
concerts.
Moi.
Ouais.
Vous en savez plus que moi, et j'adore ça. Ben, parce que la voix individuelle, c'est beau, mais quand vous avez 200 voix... qui chantent ensemble, ouais. Là, ça vous prend aux tripes d'une façon assez inattendue.
Ouais.
Moi, il m'arrache des fois des sentiments assez bizarres.
Ah oui, quel type de sentiment?
Ah, moi, je me suis mis à pleurer à un moment à Troyes. Ils étaient 850, il n'y avait pas de micro, c'était dans un gymnase. J'ai entendu une de mes chansons chantée, harmonisée comme ça, ça m'a attrapé.
Oui. Ouais. Jean Habitbol, justement, dans votre livre, vous parlez de ce qui émane de la salle, et ça joue énormément aussi sur les artistes.
Oui.
Une salle
oui.
n'est jamais la même, et il y a quelque chose qui transpire là, mais qui est absolument impalpable.
Voilà, ce qui est exceptionnel chez le chanteur, chez l'acteur aussi, ou le comédien, mais chez le chanteur un peu plus que les autres, parce que dans sa voix chantée, il y a les mots, certes, qui est le monde de la raison, mais il y a la musique qui fait partie du cerveau droit, qui est le monde de l'émotion. Et l'individuel va s'adresser au collectif. Mais lui, le chanteur, se met à nu dans ce monde émotionnel. Il devient émouvant, mais plus que cela, il se donne complètement. Il est vampirisé par le public, et cette vampirisation est telle qu'en sortant d'un concert, il est complètement fatigué. Mais, lui aussi se nourrit du collectif. Et lui aussi, lorsque la foule est positive et qu'il la ressent, il va s'en nourrir de telle façon à devenir quelque part au-delà de ce qu'il pense et faire des performances exceptionnelles. Et là, oui, il y a une espèce d'alchimie entre la foule, le spectateur, les spectateurs dans le concert et lui-même qui provoque cette espèce de chose magique du chanteur.
Ouais, ça influence...
Chanter, c'est jouer du corps de l'autre, disait Tomatis.
Mais là, il y a beaucoup de corps, justement, et ça influence la façon de chanter chaque soir, Maxime Le Forestier, selon l'atmosphère que vous percevez du public.
Oui, ce qui m'intéresse pour rebondir sur ce que dit le professeur Habitbol, c'est le langage de la foule, le langage du public, qui peut effectivement avoir un taper dans les mains, chanter, etc. Ça, c'est un langage au premier degré. Mm-hmm. Et moi, le langage qui m'intéresse le plus, c'est le silence. Quand vous arrivez à avoir un silence total de la foule, vous avez comme une connexion mentale avec les gens. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'abandonner le micro et, pour tester ça. Et là, les gens prêtent l'oreille parce que évidemment, ils sont plus habitués à entendre pas fort. Et c'est extraordinaire cette communication.
Raymond Viré.
Oui, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec ces messieurs. Je vais essayer de me défendre de toute façon, je vais y arriver. Mais c'est certain que quand vous chantez, il s'agit de sensations qu'on va donner à l'autre, au spectateur. Mm-hmm. Les sensations, et ne pas confondre sensation et position, ce que j'ai écrit aussi dans mon bouquin, quand vous êtes devant un public qui vous écoute, si vous avez une voix, une note qui se casse un peu... C'est le cas de Grèce-Membré dans Les Troyens. Le public ressent est touché à l'endroit où le chanteur a cassé. C'est-à-dire, vous avez une note très aiguë que vous cassez un peu, vous avez des sensations en tête. Et le public a les mêmes sensations.
Ouais, mais donc ça, c'est,
il a mal,
c'est terrible.
Donc il siffle.
Vous citez effectivement
à
cet
l'opéra,
exemple.
À l'opéra, c'est très, très, très.
Cette chanteuse
fréquent.
Pendant Les Troyens de Berlioz à l'Opéra
aussi,
de Paris. Donc il y a une note qui est cassée.
Ouais, mais. Ouais. Un dernier acte, elle était en déséquilibre sur une espèce de rocher incroyable de la part du metteur en scène. Et donc, elle a cassé. Enfin, cassé, c'est pas une horreur. C'était. Mais le public a ressenti au même endroit que le chanteur. Donc, quand je dis que chanter, c'est jouer du corps de l'autre, si vous avez une note grave que vous n'émettez pas bien, le public va ressentir des problèmes aux poitrines. Il va souffrir. Allez-y, excusez-moi.
J'ai envie de bol.
Non, c'est. Il y a deux notions dans ce que vous venez de dire. La première, c'est que le public est un peu cruel. Il attend cette voix très aiguë en se disant est-ce qu'elle va le faire ? Est-ce que finalement elle va y arriver ?
Ouais.
C'est les gladiateurs qu'on attend dans l'arène et le public est l'arène. Et la deuxième élément, beaucoup plus, pour moi, intéressant et passionnant. C'est le côté qu'on trouve chez tous les chanteurs quand on les regarde, c'est les neurones miroirs. Alors, parce que lorsqu'ils chantent, dans notre cerveau, il y a une région qui s'allume, et on peut presque dire leurs paroles. C'est pour ça que beaucoup de gens dans la salle diront les paroles de Maxime Le Forestier, même s'ils ne chantent pas, parce que ces neurones miroirs, ils vont s'approprier complètement ce monde-là, qui est ce monde émouvant de la chanson.
Allez, on va écouter justement la voix de Maria Callas, commentée par Meryl Streep. C'est un document assez étonnant, c'était avec Laurent Delahousse.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez comme ça la Callas ? Il y a une émotion forte que je vois et que je sens dans vos yeux ce soir.
C'est la plus grande artiste du XXe siècle, en tout cas pour moi. La plus grande. Elle a quelque chose de divin.
Dès lors qu'elle s'exprime, dès lors qu'elle est sur scène, dès lors qu'elle est là,
Parce que c'est de la musique et que la musique transcende.
Nous emmène.
Oui, exactement.
Oh my God.
Oh mon Dieu.
Voilà cette voix de Maria Callas, Raymond de Nouviré. Oh. Pourquoi cette voix a autant ému ?
Parce que cette femme a souffert, parce qu'elle a... Dans sa voix, on ressent tout ce qu'elle a eu comme épreuve.
Ouais.
Étant petite fille, étant semi-adulte.
C'est ça qu'on entend,
après.
C'est ça qui nous touche.
Oh,
parce que c'est pas une voix cristalline.
Non,
à Maria
Callas, Tebaldi, hein. La Tebaldi.
Exactement. Il y a quelque chose de très rugueux, même dans la voix de la Callas.
La Tebaldi, c'est comme Barbara Hendrix. C'était son descendant. Tellement parfait qu'on s'ennuie.
Mais la Callas, c'était quand même la fille qui n'était pas aimée, qui était un peu grosse.
Absolument.
Et on lui a dit,
alors,
tu pourras jamais chanter. Et à un moment
donné,
elle dit à sa mère, si, je pourrais chanter. Et puis elle est partie. Elle a été, bon, bref, une histoire.
Oui.
Mais la plus belle histoire de la Callas, pour moi, c'est celle qui est cette histoire quand on a fait écouter la Callas. On va chez les aborigènes. Et on fait écouter Michael Jackson, on fait écouter les Beatles, on fait écouter plein de choses.
Oui.
Et puis à un moment donné, ben ils les regardent, quoi. Ils regardent les Beatles, ils regardent Barbara Streisand et qu'ils écoutent. Et puis Et puis à un moment donné,
ils écoutent.
On balance la Callas.
Ouais.
Et ils écoutent la Callas. Et tous les 14 ou 15 aborigènes, je sais plus combien il y en a, mais se mettent à pleurer.
Oui.
Alors qu'est-ce que c'est ? J'espère qu'on ne le saura jamais.
Alors ça, c'est dans votre bouquin. Et j'avoue que j'ai apprécié beaucoup.
Les aborigènes aiment Maria Callas. Voilà, on va retenir ça et on va se retrouver dans un instant pour parler du pouvoir de la voix et celle des leaders en particulier. Et Christine Salem à l'instant sur France Inter.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Allez, Raymond de Viré, Maxime Le Forestier, Jean Abitbol pour parler de la voix cet après-midi. Vous avez beaucoup de messages qui vous attendent. On va répondre à Béatrice qui demande quand on a perdu sa voix d'une façon chronique, comment la retrouver ? Est-ce qu'il faut passer par les exercices ou la chirurgie, Jean Abitbol ?
Deux choses. La première, savoir le pourquoi de la chose. D'abord, faire un bon diagnostic. À partir de là, on peut traiter. Vouloir traiter sans avoir regardé les cordes vocales de quelqu'un, dire madame, c'est psychologique, c'est insupportable aujourd'hui. C'est comme ça qu'on voit évoluer des polypes ou des nodules, qu'on peut, avec une bonne rééducation vocale, voir des cours de chant, même en dehors de l'orthophonie, rétablir. Donc, premier point, c'est le diagnostic. Le second, effectivement, ça dépend bien sûr des chocs émotionnels. La voix n'est plus ni moins que le reflet de notre monde intérieur. Et dans ces cas-là, si on le rattache à l'histoire psychologique de cette patiente, eh bien, on va pouvoir faire le lien et voir à quel moment, comment on peut l'aider. Un, par la technique médicale, j'allais dire, et deux, par la technique en dehors de cela, de la mécanique de la voix.
La mue des garçons, qu'en est-il pour les filles? Puisque la voix des garçons mue est celle des filles, alors.
Alors, la voix des garçons mue, bien évidemment, c'est cette histoire depuis l'histoire de Farinelli, qui a été castré avant l'âge de 12 ans, avant l'âge de 10 ans, pour être tout à fait précis, pour ne pas avoir d'hormones mâles. Et qu'est-ce qu'il avait? Il avait une voix, on dit de femme? Non, bien sûr que non. Il avait une voix d'enfant, mais pas de femme. Et la voix de l'enfant, c'est deux notes au-dessus de la voix de la femme. Mais il avait les hormones de croissance qui lui permettaient d'avoir la puissance d'un homme. Et les filles, alors? Eh bien, les filles aussi ont une mue, bien sûr. Parce qu'à ce moment-là, que se passe-t-il? Les hormones qu'on appelle œstrogènes et progestérone vont être sécrétées au moment de la puberté, au moment des premières règles, et progestérone. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est que ces hormones en question, qu'on appelle la FSH d'une part et puis la LH d'autre part, qui vont permettre cette sécrétion, eh bien, font des cycles qui font que la voix, chez près d'un tiers des femmes, va sans doute changer juste avant les règles.
Ouais. Comment vit une voix, d'ailleurs, Raymond Viré?
Oh, il y a, d'abord,
chez un artiste, chez un comédien,
un peu trop, quand on abuse un petit peu, je crois. Mais le vieillissement, moi j'ai 92 ans, et il est évident que je ne pourrais plus chanter comme quand j'en avais 20 ou 30.
Ce qui est fabuleux, c'est que vous avez
une
voix
parlée. Musculaire déjà.
Oui, mais vous avez musculaire. Une très belle voix.
Le diaphragme.
Vous avez
incroyable.
Magnifique.
Une voix
mais,
parlée.
Voilà.
Incroyable.
Mais il faut faire la distinction. Je m'excuse de dire ça, mais entre l'exploit vocal qu'on a 45, 50, 55 et une voix qui vieillit, c'est pas tout à fait la même chose.
Oui, parce que une voix qui vieillit
et une voix qui, quelque part, on va perdre effectivement une certaine puissance, mais va surtout perdre le grand registre de la voix entre les aigus et les graves.
Maxime Le Forestier, par rapport à vos tout premiers enregistrements et aujourd'hui, alors, est-ce que votre voix a beaucoup changé?
Un petit peu baissée, mais elle a pris du corps. Mais non, moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est quelquefois chez les chanteurs, comment dirais-je, des tics qui arrivent.
En vieillissant.
En vieillissant, parce que bon, il y a une voix qui casse, qui brise à un moment, ça plaît au public. Donc, on va le faire de plus en plus. L'exemple le plus fort, c'est Becco. Qui à la fin de sa vie n'était qu'un raclement de gorge. Non, mais j'ai vu un de ses derniers concerts.
Tout le monde
concerts,
en prend pour son grade ici.
Non, mais c'est pas une. C'est pas une accusation. C'est ouais. Il faut. Moi, ce que je dis toujours aux jeunes chanteurs, les gens ne nous aiment pas pour nos défauts, ils nous aiment malgré nos défauts. Et donc, il faut pas développer nos défauts, parce que ça fait mal vieillir une voix.
Mais quand on écoute Charles Aznavour, a-t-il vieilli? Non. C'est extraordinaire. Sa voix a un peu changé dans son registre.
C'est mais très quelle amélioré,
merveille.
Sa voix.
Mais quelle merveille. C'est-à-dire, quand on entendait Ray Charles, après à l'âge de 72-75 ans, pareil. Donc, certaines voix vont sans doute vieillir, mais elles vont garder leur timbre. Mais surtout, le fait important, c'est lorsqu'elles vieillissent sur le plan neuronal. C'est-à-dire qu'on a un chevrotement. Alors là, oui, une voix vieillit.
Ouais, Patrice demande, enfin, nous dit ceci, il est étonnant que la formation des enseignants n'intègre pas la manière de poser sa voix face aux élèves.
Absolument.
Qu'en pensent vos invités?
Ça, c'est très vrai. C'est très vrai. Je reçois des jeunes gens, des jeunes filles qui ayant des âges subis, des conservatoires, des cours de théâtre, de je sais pas quoi. J'ai même une élève qui est prof de diction dans un cours de théâtre très réputé.
Mais il faut savoir que...
Non, mais c'est dire.
Oui. Mais pour revenir à cette question, il faut savoir qu'il y a 10 ans, je donnais une fois par mois des cours aux enseignants. C'était dans le cursus de l'enseignant. C'était des groupes d'enseignants, d'apprentis enseignants, et ça a été supprimé il y a une dizaine d'années.
Jean Habitbol, vous êtes intéressé à ceux qui nous gouvernent en écoutant des discours d'hommes politiques.
Dans les pouvoirs de la voix, oui, j'étais bien obligé.
Évidemment, ouais. La voix de certains hommes politiques leur a permis de remporter de belles batailles électorales. Oui. Alors, il y a un exemple assez étonnant, un des tout derniers en date, parce qu'on pourrait en prendre beaucoup, vous parlez du général de Gaulle par exemple, mais en 2007, dans la bataille Sarkozy-Royal, il y a un moment d'anthologie qui s'est passé. On va l'écouter et puis vous nous le commentez juste après. Échange vocal, écoutez bien les deux voix, elles sont très parlantes.
Et je pense que l'on atteint le summum de l'immoralité politique. Je suis scandalisée de ce que je viens d'entendre. tout n'est pas possible. Ce discours, cet écart entre le discours et les actes, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants handicapés, n'est pas acceptable. Alors, et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous
calmez-vous,
et les parents, non, je ne me calmerai pas.
Ne montrez pas du doigt avec cet index pointé, parce que franchement,
non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas.
Pour être président de la République, il faut être calme.
Non. Pas quand il y a des injustices. Il y a des colères qui sont parfaitement saines, parce qu'elles correspondent à
Madame
la souffrance
Royale,
des gens.
Est-ce que vous me permettez
et il y a des
de
colères que j'aurai, même quand je serai présidente de la République, parce que je sais les efforts qu'ont fait les familles, qu'ont fait les écoles, pour accueillir ces enfants qui aujourd'hui ne le sont plus. Et sur ce point-là, je ne laisserai pas l'immoralité du discours politique reprendre le dessus.
Je ne sais pas pourquoi Madame Royal, d'habitude calme, a perdu ses nerfs.
Non, je ne perds pas les nerfs. Je suis en colère. Ça n'est pas pareil. Pas de mépris, Monsieur Sarkozy. Je n'ai pas perdu mes nerfs. Je suis en colère.
Est-ce que je peux répondre ?
Vous permettez ? Il y a des colères très saines et très utiles.
Je ne sais pas pourquoi Madame Royal s'énerve. Et
je ne m'énerve pas. Je suis en
colère. Qu'est-ce que ça doit être quand vous êtes énervé alors ?
Je ne suis jamais énervé. J'ai beaucoup de sang-froid.
Ah bon, très bien. Ben écoutez, vous venez de le perdre alors, c'est pas de chance.
Non, justement pas.
Raymond Diré, qui des deux a le diaphragme le mieux placé dans
là,
cette
échange ? Je pense que c'est Sarkozy, ça c'est sûr.
Qu'est-ce que vous entendez ?
Parce que la voix de Ségolène, elle est beaucoup trop élevée. Elle s'exprime... tout à fait en l'air, là, tout à fait à hauteur des cordes. Elle devrait se servir de son diaphragme le plus bas possible. Et à ce moment-là, elle n'aurait pas perdu son
sang-froid.
C'est des raisons pour lesquelles, en général, les mannequins et les danseuses ont un mal fou à chanter, c'est qu'on leur apprend à rentrer le ventre.
Ah bah oui, absolument.
Et donc, elles n'arrivent pas à baisser leur diaphragme. C'est terrible de voir des si jolies femmes chanter si mal.
C'est évident que si Ségolène avait... D'abord, elle s'exprime vraiment au-dessus de sa vraie voix. C'est pas sa voix, c'est pas une voix qui lui appartient, celle-là.
Jean Habitbol, vous citez cet exemple dans votre ouvrage.
Alors, oui, c'est vrai que je le cite parce qu'il est caricatural, comme d'autres, mais celui-ci particulièrement pour deux raisons. La première, c'est que Ségolène Royal a une très belle voix. Elle a des graves dans sa voix habituelle, j'allais dire, permet de l'écouter. Parce que si effectivement elle était désagréable, on ne l'aurait pas écoutée jusqu'au bout. On aurait presque zappé sans l'écouter. Or aujourd'hui, ce dialogue, ce duel verbal, car le verbe ici, le mot, la voix devient, la gifle devient l'arme qui va tuer ou anesthésier l'autre. Eh bien c'est une déferlante de mots, il n'y a pas de silence du tout.
Ouais.
Alors que Nicolas Sarkozy, lui, c'est différent. C'est un avocat. Il joue avec les silences.
Et il joue avec sa voix.
Il joue avec sa voix.
Il connaît.
Ah, oui. Parfaitement.
Il connaît
c'est
tous
un
les
avocat
rouages.
Qui connaît
Absolument.
Tous les rouages, qu'on connaît bien, surtout en cour d'assises, qu'on connaît bien dans ce monde particulier, qui ont un code, qui est un code vocal particulier.
Et là, cette sérénité apparente qu'on entend dans sa voix, évidemment, c'est un contrepoids terrible à
Ségolène Royal. Il a absorbé le choc en disant, oui, d'accord, et alors ? Ça voulait dire ça, finalement.
Voilà, Raymond Viré, donc bon, toujours le diaphragme. Comment explique-t-on la différence de capacité à monter dans les aigus, demande Sylvie. D'autre part, y a-t-il un rapport entre les problèmes respiratoires et la voix ?
Oui. Une étude remarquable a été faite chez les anglo-saxons montrant que 15% des chanteuses étaient asthmatiques à partir de l'âge de 30 ans, alors que dans la population générale, c'est beaucoup moins.
Et pourquoi ? Et
tout simplement, il semblerait que le fait de développer à fond cette puissance thoracique les rend un peu plus fragiles d'une part, et d'autre part, la puissance de la voix, bien sûr l'énergie de la voix c'est, mais ça, elle le dira mieux que moi, c'est l'énergie du souffle.
Ouais.
Parce que la puissance d'une voix c'est le souffle. Le vibrato, c'est les cordes vocales. Et la caisse de résonance, c'est ce qui se trouve au-dessus des cordes vocales.
Bien sûr.
C'est la raison pour laquelle vous avez des gens qui vont avoir une voix extrêmement bien placée par rapport à la caisse de résonance et une grande puissance par rapport au souffle.
Alors, je suis complètement d'accord.
Respirons pour bien parler ou bien chanter, d'ailleurs.
Hein. C'est pareil. Hein.
Ouais.
Même tuyauterie. Hein.
Voilà. C'est pareil. Maxime Le Forestier, on se retrouve sur scène donc bientôt 28 et 29 mai prochains, on le disait tout à l'heure. Vous préparez un album en ce moment ?
J'écris doucement, j'écris surtout pour les autres en ce moment. C'est toujours une façon de m'échauffer avant de me mettre à écrire pour moi.
Donc vous prenez votre temps et les Nuits de Champagne vous accueilleront donc pour vous entendre à l'occasion de 3 concerts. Merci beaucoup à tous les deux. Raymond Duré, donc ce livre « Trouvez votre voix », c'est chez Albin Michel pour bien respirer justement.
Deuxième édition. Ouais.
Chantez librement. Bravo.
En 3 semaines.
C'est donc un succès. Mais il faut revenir plus souvent la tête au carré.
Oui.
Et le pouvoir de la voix, Jean Habitbol, qu'il faut lire également chez Alary et
édition. Que je recommande.
Très bien, bah écoutez, voilà, tout le monde est ravi. Merci beaucoup de votre venue cet après-midi dans l'émission.